Michel Camus, Les Chants de Maldoror, c'est un livre infernal et vous passez beaucoup de temps dans les enfers des livres et dans les livres des enfers.
Je ne sais pas si Les Chants de Maldoror participent vraiment de... Je ne pense pas d'ailleurs qu'on trouve le livre à l'enfer de la Bibliothèque nationale.
Ce n'est pas le même enfer.
Mais c'est vrai que d'une certaine manière, on pourrait dire que Isidore Ducasse a été un peu un précurseur de Sade, quand on pense à l'épisode, par exemple, de cette jeune fille qui est vidée. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a des choses presque anatomiques extrêmement, extrêmement cruelles. Je dois dire que très jeune, j'ai eu beaucoup de difficultés à lire Lautréamont. Je l'ai découvert, moi, à Montréal, par des homosexuels. Et à l'époque, j'ai un peu interrogé l'œuvre en me demandant si Isidore Ducasse était homosexuel. En fait, il raconte, je ne sais plus dans quel champ, qu'il assassine un pédéraste, parce qu'il n'a pas répondu à ses besoins immédiats. Et dans la description de ses rapports avec certains amis, il a enlevé d'ailleurs le nom d'un ami dans certaines corrections.
Son ami Dazé
a disparu. Et d'ailleurs, d'autre part, deux autres personnages, Elseneur et Réginald, je crois. On a l'impression comme ça d'amour, on peut dire homosexuel, que ce soit psychique, peut-être psychique ou non. D'ailleurs, je crois qu'il dit quelque part aussi « je déteste les femmes ».
Oui, et puis il y a aussi cette dernière ligne d'une des strophes où Dieu ouvre, un jour Dieu a ouvert la porte du paradis à un pédéraste.
C'est ça, oui, ça c'est une autre indication. Alors, était-il pas, ça je ne sais pas. Et j'ai redécouvert l'œuvre par la suite quand j'ai connu le peintre Paul-Émile Borduas à Paris, qui m'a d'ailleurs donné à l'époque... l'édition assez rare qu'il avait, c'est cette édition reliée que j'ai en main. Et comme toujours, quand on relit une œuvre, on la relit vraiment avec un autre œil et on la redécouvre. Ce qui est fascinant, un peu comme le personnage de Sade, Isidore Ducasse est un homme sans visage. D'autre part, c'est un de ces cas de génie extrêmement jeune. Souvent, on cite... Les génies qui sont morts à 36, 37 ans, de Mozart à René Dommal, Roger Gilbert Lecomte, etc. Mais là, c'est 24 ans. Et quelqu'un qui a pu écrire une œuvre aussi importante que ces cinq chants, d'ailleurs le premier chant, je crois, a été écrit à 22 ans, dans un jet. Il y avait un très beau mot de Carteret qui disait « Le poète est l'homme le plus troué du monde ». Et on a l'impression que Isidore Ducasse est traversé par la poésie. C'est surprenant la langue dans laquelle il écrit. Il a une culture étonnante. On a des points de repère dans l'œuvre, dans sa correspondance. Donc à 22 ans, il avait quand même déjà lu beaucoup de choses. Il a une langue admirable. Il a surtout un imaginaire qui nous transporte, mais on sent très bien qu'il l'emmène. On imagine qu'il ne sait pas lui-même où, à partir du moment où il commence un chant. Ce qui est étonnant aussi, c'est chez lui, c'est la souveraineté de sa subjectivité. Il a une autonomie à 22 ans qui, pour nous, si on peut repenser à ce que nous étions à 22 ans, est une chose absolument étonnante. Quand on parle de génie, c'est ça, je crois. C'est quelqu'un qui est habité par un démon qui est voué à la création. Et là, il en meurt malheureusement très jeune. Il y a aussi chez lui cet esprit de révolte. Ça, les psychanalystes pourraient faire des sondages dans son passé, et dans ses relations, dans son roman familial. Mais cette révolte contre l'homme, contre le créateur, c'est lui qui dit le créateur est ma subjectivité. C'est quelque chose de trop, je n'ai plus la...
Oui, de toute façon, le créateur en prend beaucoup. Dans les chants de Maldoror, il en prend pour son grade et plus que pour son grade, parce qu'il est réduit à pire que néant dans ce livre.
On a l'impression que nature et culture sont intimement mêlées hein, dans son œuvre. Il y a le début du quatrième chant qui m'avait beaucoup frappé, quand il dit « c'est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le quatrième chant ». Alors, qui parle ? Hein, il y a le problème vraiment de la subjectivité chez lui. Alors, il y a une dimension d'humour extraordinaire. Hein, quand il dit, je crois que c'est dans le même champ, si quelqu'un voit un âne manger une figue ou une figue manger un âne, ces deux circonstances ne se présentent pas souvent, à moins que ce ne soit en poésie, etc. Et finalement, ce quelqu'un se mettra à rire comme un coq. Alors, chez lui, ce n'est pas aller du coq à l'âne, mais de l'âne au coq. C'est une chose si curieuse. Oui, et puis, il y a tous ces glissements du rire du coq au rire de la chèvre, du rire aux larmes, des yeux à la bouche. Il dit, si vous ne pouvez pas pleurer par les yeux, pleurez par la bouche. Et puis, des larmes à l'urine. Oui. Et on se demande si Georges Bataille ne s'est pas un peu inspiré des chants de Maldoror dans son fameux récit « Histoire de l'œil » où le rapport entre l'urine et les larmes.
Il y a aussi ce passage où il dit, enfin, où Maldoror dit qu'il a essayé d'apprendre à rire et il n'y est pas arrivé. Il prend un couteau pour s'ouvrir la bouche comme un rire, enfin... Une contradiction aussi, une difficulté. Enfin...
C'est plein de contradictions, mais je crois que c'est quelqu'un qui n'a aucune barrière. Je veux dire, dans son imaginaire, tout est possible. On a l'impression qu'il tente, par la langue, de déréaliser le monde. Et il y a cette espèce de moi souverain chez lui qui gonfle et qui s'étend finalement à tout l'univers. Mais
vous nous parliez tout à l'heure de Paul-Émile Borduas, qui est un peintre canadien qui est peu connu en France et qui est l'auteur d'un texte dont le titre lui-même est très étonnant. C'est un manifeste qui est « Refus global ». Mmh. Alors je trouve que connaître Lautréamont et les chants de Maldoror par l'auteur du refus global, ça...
Et c'est une chose curieuse, c'est une rencontre ou un accident, mais il est un fait que Borduas, qui était un homme très cultivé, avait lu Maldoror, enfin les chants de Maldoror, je crois, très 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 jeune.
C'est un texte du refus global, les chants de Maldoror. Une expression d'un refus global, d'un refus de Dieu, de l'humanité, du monde.
Il procède autrement, c'est vrai que les chants eux-mêmes... pourrait porter en sous-titre Refus global, simplement on ne pourrait pas mettre en sous-titre à Refus global les chants de Maldoror, hein, parce que c'est plus polémique et c'est un pamphlet contre la société et une nouvelle démarche de l'art. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a toujours interrogé, je n'ai pas résolu d'ailleurs le problème, c'est la contradiction entre les chants et ce qu'il a écrit par la suite, poésie, qu'il a publié par la suite. Finalement, ces pages qu'il a appelées poésie, est-ce un canular, n'est-ce pas un canular ? Je crois que la question n'a jamais été résolue. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ait fréquenté, je crois, après la rédaction des derniers chants, des milieux révolutionnaires. C'est un pré-communard, d'une certaine manière, le père Ducasse.
Oui, ses amis du moment seront des acteurs de la commune.
C'est ça. Et on a retrouvé, dans Valès, je crois, des procès-verbaux. On suppose que c'est le même Ducasse, en tout cas. Où il intervenait assez violemment dans ses rendez-vous plus ou moins clandestins de révolutionnaires. Alors... Ce renversement qu'il peut faire dans poésie, parce que poésie c'est quand même une négation, hein, des chants de Maldoror. Les chants de Maldoror sont traversés par l'esprit de négation. Alors c'est un peu une négation de la négation. Et c'est vrai que ça procède par axiome et par affirmation. C'est à la fois un dictionnaire des idées reçues et un dictionnaire des idées irrecevables. Hein. C'est plein de contradictions. Il y en a une qui m'a particulièrement frappé et qui touche la poésie et la philosophie. Dans Poésie, il dit « Les jugements sur la poésie ont plus de valeur que la poésie, ils sont la philosophie de la poésie. La philosophie ainsi comprise englobe la poésie. La poésie ne pourra pas se passer de la philosophie pourra se passer de la poésie. Hein, » Bon, alors ça c'est une affirmation qui va à l'encontre, par exemple, de ce que disait Michel Fardelys-Lagrange, « La vérité de la poésie est première. Alors, là, autrement, on a dit le contraire. Mais deux pages plus loin...
Lui-même dit le contraire un peu plus loin.
Il dit une logique existe pour la poésie, ce n'est pas la même que celle de la philosophie. Les philosophes ne sont pas autant que les poètes. Les poètes ont le droit de se considérer au-dessus des philosophes. Alors, c'est là qu'on se demande dans tout ce texte si finalement il s'agit d'un jeu, d'une provocation... d'un canular, alors qu'il y a des choses, graves qui se glissent dedans et qu'on pourrait prendre pour argent comptant. Ce qui est étonnant, c'est qu'après autant de temps, finalement, on s'interroge toujours autant sur ce texte, et je crois qu'on peut le relire. On finit toujours par être surpris, et on n'arrive jamais, je crois, à l'intégrer et à le lire totalement. On le lit par fragments, on y revient, mais c'est pas un livre qu'on peut vider de sa substance.
Là, vous parlez de poésie.
Oui, je parle du tout, d'ailleurs, hein, à la fois des chants et de poésie. Il est incontournable, quelque part. On n'en fait pas le tour. Alors ça, c'est une force extraordinaire pour une œuvre. Hein. Finalement, je crois qu'une œuvre qui est vite comprise est une œuvre pauvre. Et une œuvre qui a ce côté inépuisable, elle traverse finalement le temps, les générations.
Est-ce que c'est un livre qui vous brûle toujours les mains? Bon, c'est une formule, mais la façon dont vous avez parlé de la découverte de ce livre et de ce qu'il a porté montre bien que c'était pour vous un livre autre chose qu'un livre. Alors, est-ce qu'avec l'usage, est-ce qu'avec le temps, est-ce qu'avec l'âge et la culture de plus en plus, est-ce que c'est un livre qui garde cette non seulement cette impossibilité d'être compris, mais aussi cette flamme?
Je crois qu'il garde pour moi une certaine fraîcheur, mais avec l'expérience de la lecture, de l'écriture, etc., on a une distance envers l'écriture qui fait qu'on ne... Il n'y a plus de fascination. Ce qu'on cherche, ce sont peut-être des éléments de communion avec le texte, ce qui peut encore enrichir... la pensée et l'imaginaire. Mais quand on est passé, par exemple, à travers toute l'œuvre de Sade, puisque c'est une œuvre sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, bon, on ne peut pas avoir la même approche qu'à 25 ans. Enfin, c'est pas possible. Mais ça reste un point de repère, une œuvre clé, et une œuvre encore vivante. C'est-à-dire, je peux encore ouvrir et jouir, hein, ce qui est important. Hein. Brûler, le mot peut-être un peu fort.